Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on vit le pire, on est parfois en dissociation, on est à côté de soi. Commence alors un long chemin pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à la vie, et seulement là peut surgir l'amour. Audrey l'a fait, ce long chemin, et la vie a mis sur sa route un être extraordinaire.
J'ai 23 ans, je sors d'une histoire qui a duré plusieurs années, enfin ça a été très décousu, puisque je rencontre un garçon, j'ai 17 ans et demi. Au moment où je le vois, je tombe follement amoureuse de lui, et notre histoire commence, on a à peu près 18 ans, et puis on est ensemble, on se sépare, on est ensemble, et donc pendant pendant quelques années, c'est des allers-retours entre nous, jusqu'au moment où il va rencontrer une femme, et où il va me dire, bah, écoute, je pense que c'est la femme avec qui j'ai envie de me marier, malgré toute l'affection et l'amour que j'ai pour toi. On se ressemble trop et j'ai besoin d'une femme comme celle-là. Donc c'est difficile pour moi, je dois me reconstruire. Je continue, j'ai de petites histoires, je rencontre d'autres hommes jusqu'au moment où j'ai 28 ans. Et là, je rencontre Daniel. Daniel, je le rencontre à un cours de théâtre. Je pars à un cours de théâtre avec un de mes meilleurs amis. On a envie tous les deux de faire du théâtre ensemble. Et donc, pendant le cours de théâtre, Daniel arrive. Donc le cours de théâtre se passe. Et à la fin du cours, le professeur demande aux nouveaux élèves, donc nous trois, nos impressions sur ce premier cours. Donc on y va, on parle avec lui. Et au moment d'échanger, on se rend compte qu'on est tous les trois des provinciaux et tous les trois de la même ville de province. Donc on trouve ça assez sympa et mon meilleur ami propose donc à Daniel de venir boire un pot avec nous. Donc on part dans un café, on discute, on échange, c'est sympa. Je le trouve très mignon. Il a un peu une tête d'artiste, les cheveux bouclés, un peu perché, mais j'aime bien. Il fait de la peinture. On parle d'expo, on parle de plein de choses. Mon copain me dit, bah viens, on le raccompagne chez lui. On le raccompagne, on prend son numéro de téléphone et je lui dis, bah écoute, à la prochaine expo où je vais, je t'appelle et on y va ensemble. On se revoit, on part à cette expo ensemble et c'est comme ça que notre histoire commence. Il travaille, il est interprète pour une chaîne de télévision. Ce qui me plaît en lui, c'est que physiquement, je le trouve très mignon. Et puis, ce côté artiste, un peu rêveur, il a une culture générale assez vaste. On parle de plein de choses. Il doit repartir aux États-Unis parce qu'il est là uniquement pour s'occuper de son papa qui a des problèmes de santé. Et puisque il me rencontre et que l'histoire devient sérieuse, il reste à Paris. De quelques mois, on décide de vivre ensemble. Et à la suite de ça, on a envie aussi d'avoir des enfants ensemble parce que moi, j'ai déjà 28 ans. Lui, il a 6 ans de plus que moi. Et on décide de se marier, de faire les choses dans l'ordre. Et on organise notre mariage. C'est un joli mariage. Tout se passe très bien. Et puis par la suite, je tombe enceinte très rapidement, 2 mois après, de notre premier enfant, un petit garçon. Et je commence à découvrir que mon mari a un rapport à l'argent très particulier. Étant donné qu'on a un compte commun, je dois commencer à justifier tout ce que je dépense. Je découvre qu'il est radin. Alors au début, je ne me rends pas compte à quel point il est radin. Mais au fur et à mesure, je vais me rendre compte que c'est pratiquement maladif. Et c'est assez compliqué pour moi. Mais bon, je suis toujours amoureuse, je suis enceinte, je ne fais pas trop attention, je me dis que ce n'est pas bien grave. Je minimise, enfin je suis un peu dans le déni de tout ça. Et donc notre premier enfant né au mois de février et 3 ou 4 mois après, j'ai un retour de couche et je retombe enceinte. Dans le quotidien, comment je me rends compte de ce problème à l'argent, c'est que je vois que je dois un peu justifier tout ce que je dépense, alors que je travaille et que voilà, je gagne ma vie. Et il commence à regarder un petit peu les notes, quand je vais acheter de la nourriture, Enfin, il commence un peu à vérifier tout ce que je dépense et à me dire, par exemple, mais ça, franchement, t'aurais pu le payer moins cher. Ça commence doucement. C'est pas trop prégnant au début. Et puis surtout, je suis très occupée, je suis très heureuse avec mon bébé, je deviens maman et je mets un peu tout ça de côté. Je retombe enceinte et là, aux surprises, j'en attends pas un, mais j'attends deux enfants. Et 9 mois plus tard, j'accouche de deux petites filles magnifiques et je me retrouve donc 1 an et demi après mon mariage avec 3 bébés, on peut dire, puisque le premier a à peine 1 an. Là, ça commence un petit peu à devenir plus compliqué. On doit déménager, évidemment, puisqu'on avait un petit appartement au 3e étage sans ascenseur. On change de voiture. Enfin bon, on change de tout puisqu'il faut s'adapter à la nouvelle situation. On se retrouve dans un nouvel appartement. Le nouvel appartement, les murs sont sales. Il y a une espèce de tapisserie horrible. Et donc, je lui demande qu'on refasse l'appartement et qu'on le rafraîchisse. Et donc, lui, évidemment, ne veut pas. Je comprends pas tout de suite encore parce que là, c'est pareil. Je suis tellement prise par mes bébés que je mets tout ça de côté, en fin de compte, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'on le fasse? Et je suis vraiment très prise par mes bébés. Je souffre de la situation, mais sans vouloir vraiment l'affronter et être objective sur ce qui se passe. Par la suite, la problématique d'argent, elle se fait de plus en plus forte, dans le sens où quand on part en vacances, on va prendre une petite location la moins chère possible. Les restaurants, faut les oublier. On va aller acheter plutôt à manger dans les grandes surfaces que chez le primeur du coin, alors que c'est beaucoup plus simple. Il va falloir prendre la voiture pour aller dans la grande surface. Les sorties et les activités avec les enfants, c'est pareil, on doit restreindre. Donc là, ça devient vraiment, vraiment pesant pour moi. Bien évidemment, ça engendre des conflits entre nous, parce que de toute façon, je réagis, ça me pèse, je peux pas faire ce que je veux quand je veux. Ça me pèse de plus en plus. Quand on part en vacances, ça crée des tensions entre nous. Je suis frustrée. Donc, il y a quand même des choses que je fais malgré le fait qu'il n'ait pas envie. Donc, bien évidemment, même quand je fais les choses et qu'il n'en a pas envie, ça génère des tensions. Et les vacances sont pas vraiment des vacances. Alors, lui, il n'admet pas du tout qu'il est radin. Il dit que c'est parce que, comme on a un budget, à nous deux, qui n'est pas énorme, il faut faire attention et que s'il avait énormément d'argent ou plus d'argent, il serait pas aussi regardant. Et donc, il minimise tout le temps et il est complètement dans le déni de sa maladie parce que pour moi, c'est vraiment maladif. C'est vrai que je me remémore que quand on s'est rencontrés, la première année, quelques mois après nous être rencontrés, avant de nous marier, on est partis en vacances. Et je ne sais pas ce qu'il m'avait raconté. Moi, j'étais amoureuse, complètement naïve à l'époque, qui ne pouvait pas payer son billet d'avion pour partir en vacances. Et donc, c'est moi qui ai payé nos 2 billets. C'est vrai que j'aurais dû réagir, c'était vraiment une preuve criante de ce problème. Mais voilà, c'était encore la première période où j'étais encore dans ce déni, où j'avais envie de construire ma vie, que je le trouvais mignon et que je me disais que voilà, on pourrait être heureux ensemble. Donc le temps passe, alors il y a le côté radin qui est pesant, mais il y a aussi le côté, on n'a pas du tout la même façon d'éduquer nos enfants, il n'est pas simple, il est assez stressé dans l'éducation, il est assez stressé surtout, même quand le ciel est bleu, il va trouver 3 nuages, et donc moi qui suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de joyeuse, c'est compliqué parce que même ma spontanéité, je suis en train de la perdre, étant donné que quand je parle, que quand je veux faire quelque chose avec mes enfants ou même avec mes amis, c'est compliqué. Au fur et à mesure, mes amis et ma famille n'ont plus envie de venir chez moi parce qu'il fait des réflexions, il est pas agréable, il est pas toujours hospitalier quand les gens viennent chez moi et tout mon entourage commence à avoir envie de me voir, mais plutôt en dehors de chez moi quand il est pas là. Passe, j'ai 40 ans, je réalise que j'en peux plus, j'en ai marre, ça devient très pesant et je me vois très bien dans ma cuisine le jour de mes 40 ans, en train de me dire, t'as pas signé à vie, c'est quelle obligation t'as de rester avec cet homme jusqu'à la fin de ta vie, t'es malheureuse, t'es complètement inhibée, il faut que tu passes à autre chose. Donc je prends cette décision et déjà psychologiquement et mentalement je me sens mieux, mais je sais que je suis pas encore prête à le faire parce que je sens que mes enfants ne sont pas prêts. Et qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler avec eux, ils pleurent et ça me déchire le cœur. Et je vais encore laisser passer quelques années. Quand j'ai 44 ans, je sens que c'est plus possible, j'arrive au bout. Et un jour, je me décide. Je me décide parce que j'ai une amie qui est malade, qui a un cancer. Et je me dis, mais je vais quand même pas attendre moi d'être malade pour partir. Je prends ma décision, j'appelle un avocat, j'entame ma procédure de divorce. Lui, il prend les choses très mal. très très mal. Il veut absolument pas qu'on divorce. Il est en train de me dire que je détruis notre famille. Il devient très agressif. En plus, au moment où je prends ma décision, j'ai pas encore trouvé un appartement, ce qui est une grosse erreur de ma part. Donc, je passe encore 3-4 mois dans le même appartement que lui. Ça devient très pénible. Heureusement, je trouve un appartement. Je laisse tout. Je laisse les meubles. Je laisse dans notre appartement et je pars. Au début, on décide d'appliquer une garde alternée. Mais c'est compliqué parce que j'habite loin de lui. Et puis mes enfants vivent assez mal ces allers-retours. Donc très vite, j'ai une de mes filles qui ne veut plus le faire. Et au fur et à mesure, les deux autres non plus. Et un ou deux ans après, donc mes trois enfants vivent avec moi. Mais lui, il vit très très mal. Et là, j'entame une procédure de divorce. Et ça va durer longtemps. Parce que lui va tout faire pour me le faire payer au sens propre, comme au sens figuré. Et cette procédure va durer pratiquement 10 ans. Moi, la première année de la séparation, j'ai qu'une envie, c'est juste d'être tranquille. Donc pendant un an, je sors très peu. Je suis chez moi, je suis bien, je me détends. Plus j'habite dans un appartement qui est en face d'un jardin, je m'implique dans mon appartement, je décore. Je vois mes amis, bien sûr, mais j'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un. J'ai juste envie de souffler et d'être calme, sereine. Et donc à ce moment-là, une de mes filles va se marier. Donc évidemment, je suis très heureuse pour elle, parce que c'est vraiment une belle histoire d'amour et un beau mariage d'amour. Mais c'est un premier enfant qui quitte la maison, donc je sens le vide, même si les deux autres sont présents. Et là, à nouveau, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et donc je m'inscris sur un site de rencontre. Et là, je commence à discuter avec Marc. J'aime bien les échanges qu'on a. Je sens que c'est un homme très intelligent, très pertinent dans ses échanges par écrit. Et à bout de quelques jours, on décide de se rencontrer. Il vient me chercher, il m'emmène dans un café-restaurant, on s'installe, on commence à discuter. Il est 9h du soir et là je suis en face de cet homme et tout s'arrête. C'est-à-dire que j'ai mis mon téléphone dans mon sac. La discussion va durer à peu près 4 heures. Je suis complètement subjuguée par cet homme, j'oublie tout. Et à bout de 4 heures, je me dis tiens, mais mes enfants, je reprends mon téléphone et là je vois que j'ai 50 messages. Mes enfants sont super inquiets parce que d'habitude j'ai toujours mon téléphone près de moi. Il se demande où je suis passée, c'est la panique générale. Lui, j'ose pas lui dire. Alors, qu'est-ce qui me plaît chez cet homme? J'aime sa douceur, j'aime les questions qu'il me pose. C'est un homme qui est très grand, qui est très fort physiquement. J'ai jamais été avec un homme qui physiquement a été fort. Mais comme il est grand et puis qu'il a un visage très doux, il émane de lui beaucoup de sérénité. Et je peux pas expliquer, c'est vraiment... c'est un peu comme la première rencontre que j'avais quand j'avais 18 ans. Je sais pas si c'est un coup de foudre, mais c'est une rencontre, c'est une vraie rencontre. Donc la troisième fois qu'on se voit, il m'embrasse pour la première fois, un petit bisou comme ça, et comme il est très fort comme ça et très grand, je me sens complètement enveloppée par lui, et je sens comme une espèce de sécurité, et je me sens bien. Notre histoire, elle commence normalement, elle commence bien. C'est pas quelqu'un qui dit « je t'aime » facilement, pas du tout. Il va être dans l'épreuve, dans l'attention, dans la générosité. Et il est très généreux dans plein de choses. Il est très attentionné sur des petits détails. Il va venir chez moi, il va voir qui me manque. Je sais pas, moi, un ouvre-bouteille, c'est peut-être idiot, mais le lendemain, je l'ai. Il voit que mon petit-fils n'a pas de chaise haute. Il va courir chez IKEA, acheter la chaise haute. Il est vraiment très attentionné sur tous les petits détails pour que mon quotidien soit beaucoup plus simple. Donc, ces 3 mois où il est très froid, on est en septembre 2018. Et là, jusqu'au mois de février 2020, c'est juste merveilleux. Tout se passe très bien. Il s'entend très bien avec ses enfants. Je m'entends très bien avec les siens. Nos familles des deux côtés s'apprécient beaucoup. On a tous les deux de la famille à l'étranger. Donc, on voyage ensemble. On va voir nos familles. Tout se passe très bien. Et moi, je me dis que c'est l'homme de ma vie. Je me projette avec lui. D'ailleurs, on a ce projet de partir vivre ensemble à l'étranger. Et je me projette complètement. Je me dis, ça y est. Alors, c'est un peu compliqué parce que vivre à l'étranger, ça veut dire laisser mes enfants en France. Mais ils sont grands et je me dis, bon, bah, je ferai des allers-retours. C'est pas un problème. Parce que lui, il est franco-israélien. Donc, il avait acheté un appartement en Israël. Donc, il était question qu'on parte vivre en Israël. Moi, j'ai mon papa en Israël. J'ai aussi beaucoup de famille là-bas. Moi, j'adore ce pays. Donc, c'était un compromis pour moi de vivre entre les deux pays et que nous vivions ensemble. Et donc là, on arrive en 2020. On commence bien sûr à entendre parler du Covid. On est assez stressé. On essaie de faire attention. Janvier, février. À début mars, on part à la piscine nager. Lui, il nageait extrêmement bien. Et il pouvait nager longtemps, faire des longueurs sans s'arrêter. À un moment, il s'arrête. Il me dit, Audrey, c'est pas normal. Ça m'est jamais arrivé. Je suis sûre que j'ai attrapé le Covid. C'est absolument pas normal. Et moi, je lui dis, mais non, pas du tout, c'est rien du tout. En plus, il commence à avoir une espèce de petite grippe. Et moi, évidemment, je lui dis, mais non, t'inquiète pas, c'est rien du tout. Et là, il va mieux, donc je suis rassurée. Parce que comme c'est quand même un homme qui est très fort physiquement et qu'on commence à dire que les gens avec un poids important sont des personnes à risque, en plus je sais qu'il a des problèmes de tension, donc je suis très inquiète pour lui. Mais bon, je vois qu'il va mieux, donc je suis tranquille. La veille du confinement, moi je commence à avoir beaucoup de fièvre et donc je comprends que je dois avoir le Covid. Et comme j'ai peur de lui transmettre, alors que malheureusement, en fin de compte, on ne le sait pas, mais il l'a déjà. J'ai encore deux enfants à la maison, je ne peux pas me confiner avec lui, je ne peux pas laisser mes enfants. Donc on décide chacun de se confiner dans notre appartement, tout en sachant que ma décision était et pour ne pas laisser mes enfants, et surtout dans l'esprit de me dire, si j'ai le Covid, je ne veux absolument pas lui donner. Donc le lendemain, il vient me voir, parce que comme c'est un homme adorable, en plus il vient, j'ai plus de télévision, il m'amène une petite télévision, il me fait des courses pour que j'ai tout ce qu'il faut à manger. Et là, ce jour-là, je ne le sais pas, mais c'est la dernière fois que je le verrai, donc je lui dis au revoir. Il rentre chez lui et à partir du lendemain, il commence lui aussi à nouveau à avoir de la fièvre. Mais le problème, c'est qu'il commence à avoir des quintes de toux de plus en plus fortes. Il commence à avoir de plus en plus de fièvre. Moi, je m'inquiète pour lui, je l'appelle toutes les heures, il m'envoie des photos de la température, il mange un peu. Et pendant la semaine, il commence à avoir des quintes de toux, il s'étouffe de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Il commence à aller voir un médecin, évidemment, à ce moment-là, on ne sait pas du tout soigner le Covid, donc on lui donne du Doliprane. La semaine passe, le week-end arrive, là, il s'étouffe de plus en plus. Et donc, le lundi, on appelle les urgences viennent le chercher. Il arrive à l'hôpital parce qu'il n'arrive pratiquement plus à respirer, il est à l'hôpital. Il va un petit peu mieux, le lendemain, il est tout content, il me dit « ça y est, je respire mieux, j'ai eu très 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 peur, mais voilà, je vais bien, t'inquiète pas, le personnel est adorable, il s'occupe très très bien de moi, donc ça c'est le mardi. Le mercredi, il recommence un peu à mal respirer, ça recommence à être compliqué. On crée un groupe WhatsApp avec sa famille, ses filles, ses sœurs. Et le jeudi, on sent qu'il a du mal à nouveau à nous parler, que c'est très compliqué, qu'il redevient très faible. Et le jeudi, en fin d'après-midi, ils nous ont un message en disant « Vous inquiétez pas, ils ont décidé de me plonger dans le coma parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution, mais tout va bien se passer, je vous aime. » Là, moi, je suis dans un état de stress énorme. Déjà, depuis la semaine d'avant, j'étais extrêmement stressée, mais là, je suis très, très, très stressée de savoir qu'on le plonge dans le coma. Évidemment, je me dis que les médecins vont savoir gérer la situation. On a toujours confiance dans le corps médical, mais quand même, on est tous et toutes hyper stressés. Je me sens extrêmement impuissante. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas aller le voir à l'hôpital. Moi, je suis la référente au niveau des nouvelles. Une fois que moi j'ai eu quelqu'un au téléphone, je retransmets les nouvelles à sa famille. De temps en temps, une de ses filles arrive aussi à avoir un des médecins. Ça dure à peu près une dizaine de jours et arrive le 2 avril. Chaque jour, on enregistre avec ma fille ce que disent les médecins. Comme ça, moi je retransmets à toute sa famille où il en est précisément dans son état de santé. Et donc ce fameux 2 avril, le médecin m'appelle, commence à m'expliquer exactement ce qui se passe, on l'a encore retourné sur le dos. Et là, elle me dit, y a un caillot de sang qui part de sa jambe, il monte au cœur, le cœur est atteint. Et là, je veux bien croire que tout le monde est paniqué, mais elle m'annonce comme ça, très froidement, voilà, le cœur s'est arrêté, je suis désolée, on n'a rien pu faire. Là, je suis dans un état d'hépétitude totale, je m'assois, je suis avec ma fille, je n'arrive même pas à pleurer. Je suis en train de me dire qu'il faut que j'appelle sa famille pour leur dire, ses filles, ses sœurs. Je suis en train de me dire que ma vie est bouleversée, mais que je vais bouleverser la vie de ses filles, de ses sœurs dans les minutes qui viennent. Mais je sais que je n'ai pas le choix, d'autant que chez nous, quand quelqu'un décède, on doit l'enterrer extrêmement vite. Donc je prends mon téléphone et j'appelle sa première fille. Qui tombe évanouie au téléphone. Sa deuxième fille, c'est son ex-femme qui appelle. C'est très très dur. Après, j'appelle ses sœurs, j'appelle une première sœur, j'appelle la deuxième sœur qui hurle et je lui demande d'appeler la troisième parce que là, j'ai plus de force. Là, on ne sait plus, on ne sait pas. Les heures passent, je suis sur mon canapé, je l'annonce à ma famille. Je je suis dans un état que je peux même pas expliquer, parce qu'en fin de compte, cet homme qui avait rien 10 jours avant, qui avait aucun problème de santé, on m'annonce qu'il est mort et je suis là sur mon canapé, je bouge plus. Là, une de ses sœurs arrive à faire un tour de force absolument incroyable et on arrive à transporter son corps en Israël pour qu'il soit enterré près de ses parents et où, de toute façon, on sait très bien qu'il souhaitait être enterré, donc il part. Il l'a enterré le dimanche, donc je ne peux pas être à l'enterrement, je suis l'enterrement sur WhatsApp. Bien évidemment, je le revois pas, je lui dis pas au revoir, c'est un cauchemar, je sais même pas quel mot j'ai tellement je suis dans un autre état. Alors j'essaye de gérer le quotidien, mais je n'arrive plus à faire les courses. C'est-à-dire que j'essaye de faire les courses, j'y arrive plus. Donc comme j'ai 2 enfants sur 3 qui vivent avec moi, qui sont des adultes, ils vont faire les courses pour moi. Ils gèrent pour moi, je suis chez moi. De toute façon, on est confiné, donc je peux rencontrer personne. Je parle au téléphone, j'ai mon frère qui est psychologue, qui m'appelle tous les jours. J'ai mes amis très proches qui m'appellent aussi tous les jours, qui essayent de me parler, de me raisonner. J'ai ma psychologue qui, elle aussi, me fait des séances par téléphone pour que je tienne. Et début mai, donc le confinement s'arrête, on est censé retourner travailler. Elle me dit vous n'allez pas y arriver, mais moi je me dis mais si, je vais arriver, je repars travailler. Pendant 2 jours, je vais au travail, je vois que c'est compliqué et à bout de 2 jours, je sais qu'à un moment on me demande de brancher un ordinateur et j'y arrive pas. Je comprends plus ce qu'on me dit, je dis excusez-moi, je comprends pas et en fin de compte, je suis en train de faire un burn-out comme ça m'est jamais arrivé. Je comprends pas ce qui m'arrive mais en fin de compte plus rien ne répond, ni mon corps, ni ma tête. Donc je rentre chez moi, je suis arrêtée. Je peux pas lire. Moi qui lis énormément, je peux même pas lire. Je ne peux plus marcher. Donc je suis devant ma télé, devant Netflix, et je passe mes journées sur le canapé en train de pleurer. C'est tout ce que j'arrive à faire. Je pleure, je dors, je pleure. Je regarde des séries complètement stupides sur Netflix et mes enfants gèrent le quotidien. Alors, il faut dire que par contre, à côté de ce grand malheur, ma fille accouche de son 2e enfant. Donc ça, ça va énormément m'aider. Alors elle est confinée loin de chez moi, mais à bout de quelques semaines, elle brave les interdits. Et ça, c'est vrai que voir ma fille arriver avec déjà mon premier fils et ce bébé, ça va être un énorme réconfort. Avoir ce bébé dans les bras, elle va venir souvent, elle va venir dormir à la maison. D'avoir mes enfants avec moi, les 3 enfants avec moi, et d'avoir ces 2 bébés avec moi, ça va doucement me ramener à la vie. Je vais être arrêtée donc, le mois de mai, le mois de juin, au mois de juillet. J'ai une de mes meilleures amies, qui est vraiment une sœur pour moi, qui me dit, allez viens, elle loue un appartement à Deauville, elle me met dans le train. Il fait très très beau à Deauville, on est au mois de juillet. Et donc elle m'emmène chaque jour sur la plage, je m'allonge au bord de l'eau. En plus elle est très psychologue, on est amies depuis qu'on a l'âge de 2 ans. On était depuis la maternelle ensemble, donc c'est vraiment ma sœur. Elle me fait parler, et elle me ramène doucement à la vie. Donc après, on rentre. Quand le confinement est terminé, sa famille ne peut pas encore venir parce que toute sa famille habite à l'étranger. Je veux aller dans l'appartement parce qu'en plus, pendant ces semaines, je faisais une fixation sur le fait que toute sa nourriture était restée. Je sais pas, je pensais toujours à ça en me disant là, mais tout doit être pourri, c'est horrible. Et donc à la fin du confinement, avec mon gendre et mon fils, on va dans l'appartement de Marc. Et quand je rentre dans cet appartement, je réalise à quel point on passe de la vie à la mort en un battement de cils. Parce que je rentre dans cet appartement où il y a encore ses affaires de travail qui sont ouvertes, la pomme dans laquelle il a croqué. C'est-à-dire que je rentre dans l'appartement d'un homme plein de vie, où tout est resté. Et je réalise à quel point tout est si fragile. Et ça va déclencher beaucoup de changements dans ma vie par la suite. C'est vrai qu'être à Deauville avec elle, c'est vraiment thérapeutique parce qu'elle me ramène doucement à la vie. Le soleil, la plage, le fait de me reconnecter déjà à la nature. Parce qu'il faut dire en plus que pendant tout ce confinement, moi, j'avais pas de balcon chez moi. J'étais dans un petit appartement. C'est comme si la nature me redonnait de l'énergie. C'était comme si une espèce de sève rentrait en moi pour m'aider en tout cas à me reconnecter à la vie. Après, je repars en vacances au mois d'août chez mon frère qui est psychologue, avec sa compagne qui est thérapeute, ils vont m'aider. Ils m'aident même, ce qui est fou, à marcher. C'est-à-dire que je ne savais presque plus marcher. Donc mon frère m'emmène en randonnée et m'aide à marcher. Après, je pars voir ma maman, etc. Je recommence à travailler, d'abord 3 jours, après 4 jours, après 5 jours. Doucement, mais sûrement, donc je reprends connexion avec la vie. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai mes amis. Heureusement, je suis entourée. je recommence à sortir. Mais bon, on est dans une période où c'est assez fragile. En même temps, j'accepte. Je crois que ma foi m'aide beaucoup. Parce que je sais que dans ma religion, on dit que Dieu décide du jour de naissance et du jour de décès des gens. Et je me dis que ben, si c'était le jour où il devait décider, il serait peut-être décédé d'un accident de voiture ou d'une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Donc, on va dire que ça m'aide. Mais en même temps, bien sûr, ma période de deuil fait que je passe par toutes les phases, par la colère, par l'abattement. J'ai un besoin de rentrer dans un nouveau projet. Et c'est ça qui va m'aider. Parce que ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que Marc me disait toujours, Audrey, pour avancer dans la vie, il faut des projets. Marc me dit, je sens que tu t'essouffles. Et je pense que ce serait bien que tu fasses un bilan de compétences pour voir vers quoi tu pourrais aller. Et j'avais commencé ce bilan de compétences quelques jours avant que l'on soit confiné. Et donc, bien évidemment, après, je l'ai arrêté. J'avais absolument psychologiquement et mentalement, j'étais dans l'incapacité de le faire. Et quand j'ai commencé à aller un peu mieux au mois de septembre, je me suis dit, voilà, ça va être un projet. Donc, je le fais pour moi. Et je le fais aussi en me disant, c'était un des derniers conseils que Marc m'avait donné. Et je me dis, ben voilà, c'est un cadeau qu'il m'a fait que de me dire qu'il fallait que je le fasse. Donc, je vais le faire. Je fais ce bilan de compétences. Ça va vraiment beaucoup m'aider. À la fin du bilan de compétences, je m'en doutais un peu, mais il s'avère que c'est vraiment l'accompagnement à la personne dans laquelle je suis la plus performante. Et donc là, je cherche auprès de qui je vais faire une formation. Je décide de faire une formation de coaching et je cherche auprès de qui je la fais. Donc ça, déjà, ça me redonne énormément d'énergie d'avoir ce nouveau projet. C'est très dense parce que la journée, j'ai mon travail salarial et le soir, j'ai mes cours. Alors, je prends aussi beaucoup de vacances, c'est en accord avec ma société. Comme j'ai eu en plus ce burn-out et que j'ai eu ce décès, ils sont très compréhensifs, ils m'accompagnent complètement dans mon projet. Pour l'instant, qui n'est pas un projet de reconversion professionnelle. Hein. Au début, c'est vraiment, j'ai envie de faire cette formation, je ne sais pas exactement où ça va me mener, mais déjà, c'est le projet de faire une formation. Le fait de me remettre dans des études, ben, ça me stimule, je dois faire un mémoire. Et donc, je décide de faire un mémoire sur l'accompagnement des femmes après des ruptures ou des divorces ou des demandes difficiles, puisque évidemment, j'ai ce divorce qui a duré 10 ans, tout ce que j'ai pu vivre, cette épreuve, et je me dis, je vais m'en servir. C'est-à-dire, de par tout ce que j'ai vécu et par cette formation, j'ai envie d'aider d'autres femmes. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est ça, c'est mes enfants, bien sûr, c'est mes petits-enfants, mais c'est ce nouveau projet qui va me redonner une énergie incroyable. Je termine mon mémoire, je termine ma formation, je passe cet examen, je suis certifiée, j'ai des très bonnes notes, je suis très heureuse. Ça me redonne en plus une grande confiance en moi. Il faut dire aussi que c'est une formation qui va beaucoup changer ma façon de penser, puisque c'est quand même des neurosciences. Pendant 2 ans, presque 3 ans, j'ai absolument envie de rencontrer personne. Je suis complètement investie dans ce projet. J'ai plein d'amis en plus. Donc, et puis même, je suis très, très prise par ce projet, étant donné que je suis salariée à plein temps. Même si je prends des jours, puisque il y a des jours en présentiel. Le soir, on a des cours par Zoom. J'ai des choses à rédiger, plus mon mémoire. Donc, je suis très occupée. Et puis même, j'ai absolument pas envie de rencontrer quelqu'un parce que je me sens pas du tout prête. Je suis encore dans mon deuil. J'annonce à mon travail que je désire partir puisque je désire m'investir à 100% dans mon projet d'accompagner des femmes dans mon coaching. À ce moment-là aussi, parallèlement, je me dis, bon, bah, peut-être que, est-ce que j'ai pas envie de rencontrer à nouveau un homme? Donc, je me rends inscrit sur un site internet. Et là, pendant plusieurs mois, je vais rencontrer peu d'hommes, mais je rencontre des hommes que je trouve complètement inconsistants. Et je suis vraiment très déçue par tous les hommes que je rencontre. Et on arrive au mois de novembre et je me dis franchement, je vais arrêter, c'est une perte de temps. D'autant plus que j'ai un autre projet aussi, puisque je change tout, c'est j'ai le projet de déménager également, qui va me prendre beaucoup d'énergie. Donc entre mon projet professionnel et mon projet personnel de déménager, je me dis c'est pas le moment. Et le samedi arrive et je me dis, je vais me désinscrire de ce site. C'est vraiment une perte de temps, d'énergie. Et je vois arriver le visage d'un homme qui a beaucoup d'énergie. Je vois sa photo et je vois cette énergie, je vois ce grand sourire et je me dis, mais non Audrey, tu t'es dit que ça y est, ça suffit. Et pendant plusieurs heures, je réponds pas et je me demande ce que je vais faire. Mais je venais de passer 3 jours toute seule chez moi. Je suis assez déprimée quand même. J'ai pleuré en plus pendant ce week-end parce que voilà, c'était cette solitude. Et là, je me dis, bon, allez, ok, c'est le dernier. De toute façon, j'ai rien à perdre et je réponds. Je commence à entamer une discussion avec lui. Et donc là, je lui réponds et à bout d'un quart d'heure, il me dit « Écoute, moi, je suis pas du tout dans les écrits. Est-ce qu'on peut se parler au téléphone ?» Et d'habitude, c'est pas ce que je fais. Mais comme c'est la nouvelle Audrey, avec tout ce que j'ai appris de nouveau, je dis « Ok ». On se parle au téléphone. Il est 10h du soir. Je suis en pyjama dans mon lit. Et il me dit « Mais viens, toi, tu fais rien. Je fais rien. Viens, on se donne rendez-vous dans un café et on va boire quelque chose. » Je me dis « De toute façon, j'ai rien à risquer dans un café. Il peut rien se passer. » Je me rhabille, je me maquille, à 10h30 du soir, personne ne sait que je sors, mes enfants ne sont pas là. Et on se retrouve dans un café. On s'assoit dans le café et je vois cet homme en face de moi. Et après tous les hommes, enfin tous, il n'est pas beaucoup, mais il a une telle énergie, un tel sourire que je me dis, ah, franchement, ça fait du bien. Voilà. Même avant de parler, ça fait du bien. On commence à discuter. Chacun parle de banalité, combien on a d'enfants, ce qu'on fait dans la vie, etc. Et qu'est-ce qu'on aime ? Et à bout de trois quarts d'heure, je lui dis, écoute, moi j'adore danser. Il me dit, ben, si t'aimes danser, eh ben, viens, on va danser. Et donc là, on part danser. Je me retrouve à minuit, 1h du matin, on est en train de danser tous les deux, et c'est génial, quoi. Dès le début, il me sort complètement de ma zone de confort, et j'adore, quoi. Déjà, j'ai beaucoup changé depuis l'apport de Marc, parce que l'électrochoc a fait que je sais qu'aujourd'hui, la vie est précieuse et que du jour au lendemain, on peut ne plus être là. Mais là, en plus, avec cet homme, alors là, ça part à 1000 à l'heure. Eric m'embrasse et vraiment, dès le début, j'apprécie ce baiser. Je me sens bien. Dès le début, je me sens bien, de toute façon, avec cet homme, parce que c'est de l'intuition, je ne sais pas. Je crois beaucoup aussi au pot à pot, c'est-à-dire que quand cet homme me tient la main, tout de suite, je me sens bien avec lui. Je me sens en confiance, en fin de compte. Je sens que cet homme ne peut me faire que du bien. Donc, je rentre chez moi complètement excitée. Je rigole toute seule, un peu comme une gamine, parce que personne ne sait que je suis allée danser jusqu'au milieu de la nuit. Ouais, comme une gamine, je me couche. C'est très rigolo, quoi. Je me sens emportée par ça. Et dès le lendemain, on se revoit, on dîne ensemble. Et là commence notre histoire. Donc physiquement, rien à voir avec Marc, rien à voir du tout, il est plus petit de taille, il est pas gros. Maintenant, ils ont d'autres points communs, Marc était vraiment un papa poule extraordinaire et lui aussi. Il n'y a aucune ressemblance, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle rencontre. Mais ce que j'aime en lui déjà, c'est sa joie de vivre, mais ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est la relation qu'il a avec ses enfants. J'aime les hommes qui assument leurs responsabilités, d'autant plus que lui, il a dû s'occuper de ses filles seules. Et il adore ses enfants, il adore sa famille, il a un sens de la famille que j'aime énormément. Et puis il a ce sens de la fête, il aime sortir, il a beaucoup d'amis. Enfin, c'est vraiment un rayon de soleil qui rentre dans ma vie. Petit à petit, je m'attache à lui, je sens que je suis en train de tomber amoureuse. J'ai pas peur de la relation en elle-même, je pense que ce qui pourrait me faire plus peur aujourd'hui, c'est de le perdre. Parce que j'ai quand même ce traumatisme-là. Bien entendu, il est au courant de mon histoire. Lui aussi me raconte ses histoires précédentes. Et donc, on est complètement transparent sur notre passé, sur notre présent. Et du coup, c'est une relation, mais très facile, quoi. Parce que c'est quelqu'un de très franc, de très honnête, de très spontané, qui va pas cacher les choses, qui va dire les choses simplement. Et ça aussi, c'est ce que j'aime en lui, c'est que il y a pas de non-dit, il y a pas de tension. Avec lui, c'est très facile. Et du coup, je me sens très bien dans cette relation. J'en reviens pas, toi. Je pensais pas à nouveau pouvoir rencontrer une personne qui a autant de qualités. Et je me dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir rencontré cet homme. Aujourd'hui, on est très bien ensemble. On vit chacun de notre côté. Pour l'instant, on n'a pas du tout le projet de vivre ensemble. Moi, en plus, je suis partie vivre en banlieue et lui, il adore vivre dans le centre de Paris. Donc, le bon compromis, c'est que, ben voilà, quand j'ai envie d'être dans le centre de Paris, je vais chez lui. Je suis dans l'effervescence parisienne. Et puis lui, ben, bien sûr, il vient chez moi aussi. Mes enfants l'adorent. Et alors, c'est quelque chose d'incroyable parce que très, très vite, tout mon entourage s'est énormément attaché à lui. Et ça, c'est une surprise incroyable. Pour moi, ça, c'est très important parce que c'était tellement tendu quand j'étais mariée, je sentais tellement de tension que d'être avec un homme qui est apprécié de tout le monde, c'est pas ça le plus important, mais je me rends compte que le fait que tout le monde le valide, bah, ça m'apporte encore plus de sérénité dans cette relation. Aujourd'hui, nos projets, c'est d'être ensemble. On parle pas encore de vivre ensemble, ça arrivera peut-être un jour, hein. Mais on est très heureux ensemble, on est amoureux, on a envie de voyager ensemble, on a envie de faire plein de choses ensemble. On est beaucoup ensemble, hein, en fin de compte. C'est vrai que j'avais envie de témoigner aussi de ça parce que je pense qu'il mérite vraiment que je dise à tout le monde à quel point c'est un homme merveilleux.
Bon, si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle « Les Rescapés ». En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.